Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Messieurs, allez, juste petit tour de table, vous vous remettez dimanche soir à l'annonce des résultats, vous vous attendiez à ce qui allait nous tomber dessus, la dissolution, vous vous attendiez à vivre une semaine complètement dingue, Marc Vigneault?
Moi je crois que évidemment non, même si on pouvait se douter quand même quand moi je suis quand même les débats budgétaires.
Ben oui.
Et donc je voyais bien qu'à l'Assemblée il y avait quand même un gros blocage avec les Républicains, que Emmanuel Macron avait du mal à leur tendre la main. Déjà lui il allait pas assez, sans doute pas assez vers eux, et eux fixaient des conditions qui n'arrêtaient pas de changer. Il y avait un responsable des Républicains qui disait faut pas toucher aux dépenses de santé pour faire des économies, l'autre qui disait faut pas toucher aux dépenses de retraite. Ça devenait complètement cacophonique et donc il fallait qu'il se passe quelque chose. De là à imaginer un scénario de dissolution, effectivement, c'était compliqué.
Alors, vous avez raison de dire que finalement, bon, il y avait du jeu un peu dans la mécanique, mais en même temps, Xavier Jaravel, on avait l'impression qu'il y avait des perspectives qui étaient assez tracées pour l'économie française. On avait un programme budgétaire, on savait que les impôts allaient pas augmenter, on se disait on va avoir une croissance d'à peu près 1% avec un taux de chômage qui va rester stable. Et donc tout le monde, finalement, avait un peu ancré ses anticipations autour de ce scénario pour les 2-3 prochaines années. Est-ce que, du coup, cette plongée dans l'incertitude va avoir un coût en matière de croissance?
C'est sûr qu'il y a maintenant beaucoup, beaucoup d'incertitudes. C'est difficile de quantifier un effet sur la croissance, mais un élément, par exemple, c'est de regarder les spreads sur la dette publique française par rapport à l'Allemagne, qui ont un peu augmenté cette semaine. C'est assez volatile et donc c'est effectivement cohérent avec l'idée qu'il y a beaucoup d'incertitudes, les investisseurs ne savent pas comment se positionner, sachant qu'il y a deux grands partis avec des programmes non financés. Donc je pense que c'est à court terme là qu'on voit l'effet sur les taux d'intérêt et on en voit déjà un peu la couleur.
Erwan Tison, est-ce que d'ores et déjà, finalement, il n'y a pas que le gouvernement qui va expédier les affaires courantes, mais est-ce que les ménages dans leur vie quotidienne, est-ce que les chefs d'entreprise qui avaient tous peut-être des projets d'investissement ou d'embauche se disent finalement on va attendre?
C'est ce qu'on pourrait dire en premier abord. Bon, ce matin, sur votre antenne, on entendait qu'il y avait des projets d'investissement, mine de rien, mais l'avantage qu'on peut avoir, c'est que le deuxième tour a lieu dans 3 semaines. Donc, quelque part, cette bulle d'incertitude va être assez restreinte. Donc, peut-être qu'il va y avoir un certain arbitrage sur certains investissements, notamment à l'étranger. Par contre, ce qui va être assez intéressant de voir dans la campagne, c'est à la fois la qualité des programmes et la qualité de la démesure de certains programmes. Il y a quand même 2/3 des partis qui se présentent, qui ont des programmes qui sont complètement délirants d'un point de vue économique. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est le coût sur le long terme, notamment le coût de l'acceptation de l'absurdité. On sait qu'en France, on a une cognition économique qui est quand même un peu plus faible que certains de nos voisins. Si tout le monde se met à promettre des choses qui sont complètement aberrantes d'un point de vue budgétaire, ça peut rentrer dans l'opinion publique comme étant des faits qui sont immuables et qui sont de toute façon finançables. Si 2/3, encore une fois, des partis disent la retraite à 60 ans, 62 ans, ça pose pas de problème. Un SMIC à 1500, ça pose pas de problème. Une baisse des impôts pour tous les gens de moins de 30 ans, ça pose pas de problème. On va se dire, effectivement, on peut raser gratis. Donc on laisse instiller comme ça dans l'opinion publique le fait que en fait on n'a pas de problème budgétaire alors qu'on est quand même dans la situation complètement inverse.
Marc Vigneault, vous avez regardé les programmes des candidats et notamment des partis et notamment celui du Rassemblement National. Sur le plan budgétaire, à quoi il faut s'attendre?
Alors c'est ça, moi ce que j'ai écrit récemment, c'est quels étaient les ajustements que le RN commençait déjà à faire à son programme.
Ouais.
Pour essayer de rassurer. Parce que leur principal problème, dans la perspective d'essayer d'obtenir la majorité absolue, c'est de dire on n'est pas crédible. C'est que les commentateurs disent vous n'êtes pas crédible. Et donc ils commencent déjà à rétro-pédaler sur tout un tas de choses. Et ils expliquent qu'ils vont réduire le déficit parce qu'ils ont bien conscience que le déficit est à un niveau trop élevé. Je rappelle que le déficit à 5,5% du PIB, compte tenu des conditions économiques actuelles, ça fait augmenter la dette automatiquement. Il faudrait que le déficit primaire, c'est-à-dire hors charge d'intérêt de la dette, baisse considérablement pour à peu près arriver à stabiliser la dette dans les quelques années. Personne ne sait exactement à partir de quand il faut qu'il soit ramené à zéro, mais ça fait un ajustement budgétaire énorme. Et donc, le RN dit lui-même, on va lancer un grand audit, Emmanuel Macron a laissé le pays dans un tel état qu'on ne pourra pas tout financer, et donc maintenant, la mesure qui reste pour le début du mandat, c'est la baisse de la TVA sur les énergies, parce que ça, c'est une promesse symbolique de pouvoir d'achat. S'il se renie là-dessus, ça devient compliqué. Mais même cette baisse de TVA sur l'électricité, le gaz, les carburants, le fioul domestique, on se demande comment ils vont la financer tout en promettant de diminuer le déficit, sachant que le déficit ne devait baisser un tout petit peu que si les promesses d'économie d'Emmanuel Macron, des économies gigantesques, étaient réalisées à la fois cette année avec, vous savez, les fameux la deuxième tranche de 10 milliards d'économies, et à la fois pour l'année prochaine où il y a entre 20 et 25 milliards d'économies. Et même si vous retirez l'augmentation naturelle des intérêts de la dette, en fait l'effort, ce qu'on appelle l'effort structurel à réaliser, il est colossal. C'est de l'ordre de 95 milliards d'euros d'ici 2027 pour amener le déficit à 3%. Donc le RN est clairement en train de dire, par exemple, la réforme des retraites.
Attendez. Ouais, mais là, ça va être le coup classique, c'est-à-dire qu'on va nous dire, il y a un audit des finances publiques, le résultat est catastrophique, nous n'avons aucune marge de manœuvre, et donc on trouve le pays dans un état bien pire que ce qu'on pensait, et donc on pourra pas faire.
Mais le RN est sur une ligne de crête en disant, il faut à la fois que je remplisse mes promesses pour ne pas décevoir les gens, parce que j'ai quand même fait campagne depuis des années sur des mesures, et à la fois il faut que je ne déclenche pas une tempête financière. Et ça, on voit que c'est un exercice extrêmement compliqué à tenir.
Mais en l'occurrence, c'est une stratégie, je pense, qui leur convient très bien, puisque ça permet de dire, restons flous sur notre programme. On ne sait pas, on dit pas exactement ce qu'on va faire. On donne quelques mesures symboliques qui parlent directement peut-être à une certaine partie de l'opinion, comme la TVA. Mais on dit qu'on ne peut pas être plus précis parce qu'on repousse à une stratégie d'audit. Donc mais c'est quand même un peu cousu de fil blanc. Et donc si on regarde par exemple les quelques mesures auxquelles ils sont toujours attachés, comme la baisse de la TVA, c'est quand même une mesure très peu ciblée. C'est aussi une mesure qui est probablement peu efficace quand on regarde des pays qui ont fait ça. Par exemple en France, à la fin des années 2000, dans la restauration, en fait, il y a ensuite eu des études où on a vu que la baisse n'a pas été entièrement répercutée. Il y a d'autres cas où en fait ça a été répercuté. Par exemple, l'Allemagne a fait une baisse temporaire de la TVA lors de la crise Covid. Et là, en fait, on voit qu'il y a eu une baisse répercutée des prix. Mais c'est pas toujours le cas. C'est plus le cas quand c'est temporaire. Et là, en l'occurrence, a priori, ce serait quelque chose de permanent. Et surtout, c'est très peu ciblé. Donc, c'est une manière très dispendieuse d'essayer d'augmenter le pouvoir d'achat. Et en termes de stratégie globale, avant, on était sur une stratégie qui consistait à dire il faut faire augmenter la productivité, faire diminuer le chômage. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps. C'est des choses qui, on peut se dire peut-être que c'était trop lent, mais de fait, le chômage a baissé. Et là, on passe dans un autre monde qui est à nouveau plein d'incertitudes, pour revenir à la question de tout à l'heure.
Alors, sachant quand même que la chance qui pourrait être celle de la prochaine majorité, c'est que quand vous regardez ce que disent finalement les grands équilibres sur les marchés de l'énergie, regardez le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui dit attention, surproduction de pétrole dans les prochaines années, ce qui laisse penser que finalement on pourrait peut-être avoir une baisse des prix de l'essence. Le gaz, on est quand même revenu à des niveaux de prix sur les marchés qui sont très bas, qui sont même deux fois plus bas que ceux de l'année dernière. Et sur l'électricité, on nous dit avec le retour du parc nucléaire, etc. Donc finalement là-dessus,
mais sachant que sur l'électricité,
on pourrait peut-être pas si mal s'en tirer que ça.
Juste pour dire que sur l'électricité, on a contrôlé les prix. Et donc c'était une manière de répondre au problème.
Ce qui est très intéressant avec le programme du RN, c'est que vous avez vu Bruno Le Maire, à peine la dissolution annoncée, arrive sur les plateaux et dit, avec moi, avec la majorité actuelle, vous aurez une baisse de 15% du prix de l'électricité, 10 à 15%. Et tout le monde s'est dit, il court après le RN, tout d'un coup il annonce une baisse de prix de l'électricité. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que compte tenu des niveaux de prix actuels, Bruno Le Maire sait exactement que l'électricité va baisser toute seule de 15% en février. Donc c'est le moment réglementaire où on peut baisser le prix de l'électricité. Je termine juste sur ce point parce que ça me paraît important, si je peux me permettre. Et donc, en fait, même en remontant les taxes au niveau d'avant-crise, qui ne sont pas encore au niveau d'avant-crise.
Absolument.
Donc, ça veut dire que l'ERN a un énorme avantage. C'est en restant assis sur sa chaise, en ne faisant rien, le prix de l'électricité va baisser.
Exactement.
Et donc, il va rajouter une baisse d'impôts ruineuse qui ne sert strictement à rien. Du point de vue, et c'est un problème du point de vue des finances publiques, alors que en restant patiemment assis sur sa chaise, en février 2025, l'électricité aurait baissé toute seule.
Justement, ça fait partie. Alors, peut-être, mais peut-être que du coup, il va rester assis tranquillement sur sa chaise, Erwan Tison. Parce que la question qu'on se pose aussi, c'est qu'on voit bien. Alors, dans quel degré finalement il sera mis de l'eau dans le vin du programme. Et là, c'est les deux options qui sont toujours présentées. C'est l'option Liz Truss, Royaume-Uni, qui est pas très différente finalement en termes de programme. C'était 100 milliards de livres d'économie, de baisse d'impôts, etc. Et alors la sanction des marchés est terrible. Ou alors l'option plutôt à l'italienne avec une Giorgia Meloni qui a pris soin de dire qu'elle n'irait pas contre les engagements européens, etc. Et où pour finalement l'économie italienne, bon, ça se passe pas si mal.
Oui, on peut se dire que la chance qu'a la France dans ces cas-là, c'est d'avoir un carcan qui est effectivement les marchés financiers, qui empêche quelque part de faire un petit peu n'importe quoi sur le marché domestique. Mais il faut faire attention parce que l'économie n'est pas tout. Enfin, on parle du programme économique du FN, mais le programme du FN, c'est pas que de l'économie. Enfin, du RN, c'est pas que de l'économie. Ouais. Il y a aussi d'autres choses qui font entrer aussi la société française dans une autre forme d'incertitude. Là, quand on regarde, par exemple, c'est marrant de voir la confiance relative qu'il peut y avoir sur notre dette. Quand on voit ne serait-ce que la perspective qu'il y a eu à partir de la dissolution et des premiers sondages, notamment sur le spread et sur l'OAT 10 ans, de se dire en fait la structure de la dette reste la même, mais selon les personnes qui vont devoir la gérer, bah, on n'accorde pas forcément la même confiance, donc on n'est pas forcément prêt à accepter la même rémunération du risque. Effectivement, sur le point de vue économique, leur programme est complètement délirant, ça tout le monde le sait, ça a été documenté. Il y a de grandes chances effectivement, en plus ils pourront se replier derrière deux parapluies, de dire bah, le pays, je suis à la tête d'un État endetté ou d'un État ruiné, ou je ne peux pas faire telle et telle chose parce que je n'ai pas tous les pouvoirs, parce que ça dépend de l'Élysée. Le président l'a rappelé en plus hier, constitutionnellement, en France, il y a quand même beaucoup de choses qui dépendent du président de la République, notamment la signature des différentes lois. Mais quelque part d'autre, moi, ce qui me fait plus peur, c'est sur la vision sociétale et les propositions sociétales que peut développer le RN, avec notamment ce climat qui pourrait être, à mon avis, tout sauf propice à la réactivité du business, et qui pourrait, en tout cas, faire que certains pays, certains investisseurs se disent, bon, bah, la plupart des projets d'IDE que j'avais, je vais peut-être pas les réaliser dans un pays qui, effectivement, rentre en incertitude sociétale.
Oui, alors ça, c'est la troisième ou quatrième réplique après les marchés. Xavier Jaravel, vous citiez tout à l'heure, finalement, l'influence des marchés financiers. J'ai envie de vous demander combien de temps, aujourd'hui, on peut défier les lois de la gravité économique. Combien de temps un pays peut s'affranchir des lois de la gravité économique? En 81, avec le programme de François Mitterrand, on a vu que ça avait pu durer 2 ans. Est-ce que aujourd'hui les marchés financiers nous laisseront la France 2 ans sans réagir en cas de dérive incontrôlée de notre politique économique?
Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que les choses changent, elles changent très vite. Donc ça a l'air calme jusqu'au moment où tout change, et ensuite ça change très très vite. C'est toujours un point à garder en tête. Et l'autre point, c'est que, comme disait tout à l'heure aussi Erwan, on est dans un pays qui n'a pas une culture du respect des finances publiques, une culture par exemple du chiffrage des programmes, comme il y a dans d'autres pays comme...
Fondation Jean-Baptiste Say, il y a 2/3 des Français qui n'ont aucune idée de ce que représentent les déficits et la dette publique.
Mais pour autant, aujourd'hui, il me semble que la différence par rapport à 2022 ou 2017, c'est qu'on a une trajectoire qui est déjà très problématique. Où en gros, il faut, ce que disait Marc à l'instant, il faut déjà trouver de l'ordre de 100 milliards d'euros pour être un déficit en dessous, ben, qui soit plus faible que 3%, qui est toujours un déficit à horizon 5 ans. Et donc on est bien loin derrière la plupart des pays européens sur cette trajectoire. Et donc rajouter 100 milliards d'euros de non-financement, qu'il s'agisse du RN, probablement aussi de LFI, c'est difficile de croire que ça puisse passer. Donc, a priori, si c'est ces programmes, ces formations-là qui en venaient aux responsabilités, probablement qu'ils n'essaieraient pas de faire leurs 100 milliards non financés. Enfin, c'est le plus probable. Je pense qu'ils ne prendraient pas ce risque. Juste pour souligner deux différences rapidement par rapport aux exemples que vous citiez, Liz Truss. La différence, c'est que la Banque d'Angleterre avait dit qu'ils cesseraient de racheter les bons du Trésor anglais. ce qui a mis plus de pression encore, à encore plus court terme, et donc, alors que là, la BCE n'est pas dans une approche comme celle-là. Et s'agissant de Meloni, il y a une incitation à la rigueur budgétaire du côté italien qui vient du fait qu'il y a le plan de relance qui est financé largement par
l'Union européenne. L'Italie a été la grande bénéficiaire.
Ouais. Et donc, du coup, en étant plus responsable, on engrange ces bénéfices-là, ce qu'on n'a pas dans le cas français.
Ouais. Marc Mignot.
Alors, quand même, je nuancerais, c'est si un pays fait n'importe quoi sur le plan de la politique économique, c'est-à-dire que, imaginons, le RN applique son programme. Donc déjà, soit il applique son programme et on va avoir un problème financier, soit il n'applique pas son programme et quand même les gens risquent d'être à nouveau déçus. Ça fait 30 ans qu'ils se disent on essaye les mêmes politiques, voire plus. Ceux qui n'ont jamais essayé et qui soulèvent aujourd'hui un espoir, on est bien obligé de le constater, s'ils n'appliquent pas leur programme, c'est quand même très problématique. Mais dans ce cas-là, s'ils appliquent leur programme, c'est évidemment une hypothèse théorique, la BCE ne va pas la BCE ne va pas déclencher son programme de rachat de titres massifs pour sauver la France. L'idée, c'est quand même qu'il faut respecter certains critères. Il ne faut pas faire une politique qui, en plus, pose des tas d'autres problèmes autres qu'économiques. Et donc, la BCE ne va pas donner un blanc-seing au RN. Alors, évidemment, on ne sera pas comme dans la situation de Liz Truss. Et par rapport à l'Italie, Meloni, l'autre cas polaire où on se dit, tiens, ils vont faire quelque chose qui tient la route. Et puis, regardez, Meloni, elle est plébiscité, si j'ose dire, par les électeurs, elle a renforcé son pouvoir, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, moi, ce qu'a dit Xavier est évidemment vrai, mais c'est aussi parce que Meloni, elle a bénéficié de l'argent du plan de relance. Elle avait des milliards, des dizaines de milliards dont ne bénéficiera pas le RN pour financer sa stratégie. Et je rappelle que l'Italie, malgré ses milliards, a quand même 7% de déficit cette année et finance des travaux de rénovation énergétique sans aucun contrôle. En gros, en Italie, il y a des tas d'électeurs qui font rénover leur maison, rien n'est contrôlé aux frais du contribuable, avec un crédit d'impôt qui est de 110% de la valeur des travaux. Donc il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Là, le RN, il n'a rien de tout ça.
Ouais. Alors, on parle beaucoup du Rassemblement national, Erwan Tizon, mais de l'autre côté, on a un nouveau Front populaire, cette alliance de gauche, dont on commence à avoir des éléments de programme, dont l'indexation des salaires sur l'inflation, l'indexation des retraites sur l'inflation, la hausse du SMIC, le retour de l'ISF. Alors, ce que je vais vous demander est très compliqué, mais est-ce qu'on peut faire un match entre finalement l'impact du programme RN et l'impact du programme nouveau Front populaire?
Le programme, effectivement, Front populaire paraît tout aussi délirant. Si on se met à la place des marchés, ce qui peut-être rassurer, c'est que dans le Front populaire, vous avez certains partis de gouvernement. En plus, maintenant, vous avez un ancien président de la République qui peut-être sera investi, ou peut-être sera ministre, ou peut-être sera conseiller, je ne sais pas. Donc, ça peut rassurer ce côté... Mais c'est tout ce qu'on peut trouver. Non, je trouve que ce qu'on attend est complètement délirant. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que là, on va voir le programme à midi, mais de faire, par exemple, de la réindexation, l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est très séduisant sur le papier, effectivement. On se dit, quand on n'a pas la tête dans les livres d'économie, ça paraît logique. Mais on va encore une fois occulter que le véritable moteur de l'augmentation des salaires, c'est la productivité. Et c'est un sujet qui n'a pas du tout été mis dans le débat politique ni économique par nos décideurs. Et donc, du coup, forcément, ça ne déclenche pas tous les autres débats qu'il peut y avoir derrière sur l'innovation, sur l'organisation du travail, sur le fait que la France ait perdu 5 points de productivité depuis la crise du Covid. Donc on s'enferme dans ce que je disais en début d'émission, dans cette boucle de se dire on rase gratis et en fait on occulte les principes économiques de base. Et donc dans ces cas-là, si on occulte en fait la racine du problème, on ne pourra jamais commencer à discuter du début d'une queue de solution.
Marc Vignon, rapidement avant la pause et après.
Je crois que je vais vous faire votre transition avec votre prochain sujet, si j'ai bien compris. Dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites, donc qui regarde les perspectives financières du système de retraite, qu'est-ce que dit le corps? Il dit à long terme, les salaires et donc les cotisations sur lesquelles sont assis le régime de retraite évoluent, et ça c'est de l'observer, c'est pas une hypothèse, évoluent comme la productivité. La productivité, c'est la production par tête ou horaire par tête. Et donc, si vous n'avez pas de productivité, or elle est en chute depuis la crise Covid, vous pouvez dire aux entreprises d'augmenter artificiellement les salaires, mais ça veut dire que les entreprises vont avoir un énorme problème de marge et donc vont avoir un énorme problème pour investir. Et on veut au contraire que les entreprises investissent dans la transition énergétique. Donc dans la vision fantastique du Front populaire, c'est l'État qui financerait intégralement la transition énergétique, et on peut douter, vu l'état des finances publiques, que ça soit réaliste.
Allez, on revient sur cette thématique après la pause avec vous, Xavier Jaravel.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.